Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bourumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 4 septembre 2023. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président iranien rappelle la nécessité du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de tous les pays de la région pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Le Hamas a procédé à un test de missile depuis la bande de Gaza. Et au Niger, des manifestants réclament le départ des soldats français pour le 3e jour consécutif. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi rappelle la nécessité du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de tous les pays de la région pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Lors d'une réunion avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, dimanche 3 septembre à Téhéran, le président iranien a réaffirmé que pour pouvoir prévenir les activités terroristes et anti-sécurité sur ces territoires, tout gouvernement doit être entièrement en mesure d'exercer sa souveraineté. Le président Raisi faisait en fait allusion à la présence des forces turques en Syrie, affaire sur laquelle la Turquie et la Syrie divergent profondément. La Turquie a déployé des forces en Syrie en octobre 2019 en violation de l'intégrité territoriale du pays arabe. Or, ce dimanche, à Téhéran, le président iranien évoquait la nécessité du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de tous les pays de la région, ce qui s'avère, insiste-t-il, essentiel pour la lutte contre le terrorisme. Il a souligné l'importance de gérer efficacement la présence de forces étrangères dans différentes régions, y compris dans le Caucase, et a déclaré que tous les États de chaque région devraient résoudre leurs problèmes par le dialogue et la coopération. Plus loin dans ses propos, M. Raisi a souligné les points communs culturels et historiques que partagent l'Iran et la Turquie pour exprimer l'espoir que les deux pays amélioreront leur coopération au cours du nouveau mandat présidentiel du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a déclaré que le comité économique conjoint entre l'Iran et la Turquie jouerait un rôle efficace en ouvrant la voie à des interactions commerciales accrues entre les deux pays. Pour sa part, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a indiqué que l'Iran et la Turquie disposaient de grandes capacités pour élargir leur coopération et qu'ils étaient capables d'atteindre l'objectif de 30 milliards de dollars fixé pour leur commerce annuel. Arrivé dimanche à Téhéran, accompagné d'une délégation de haut rang, Hakan Fidan avait déjà assisté à une conférence de presse conjointe avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian. Sa rencontre plus tard dans la journée avec le président iranien a succédé par un entretien avec le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Akbar Ahmadian, sur les questions d'ordre sécuritaire d'intérêt bilatéral. Le mouvement de résistance islamique palestinien Hamas a exécuté ce lundi 4 septembre un test de missile depuis la bande de Gaza. Les médias locaux palestiniens ont annoncé que le Hamas a tiré ce lundi deux missiles depuis le sol de la bande de Gaza vers la mer, une démonstration de force de ses capacités balistiques. Le mouvement n'a pas encore précisé qu'il s'agissait de quelle sorte de missile et avec quelle portée. Le journal Al-Rot a affirmé qu'après cet essai, une explosion s'est fait entendre depuis l'ouest de la ville de Gaza et du nord de la zone. Les groupes de résistance palestiniens ont testé à maintes reprises durant ces dernières années des missiles dont ils souhaitent augmenter aussi bien la qualité que la quantité pour se préparer à une éventuelle guerre contre Israël. Le plus récent essai de missiles de la résistance palestinienne date du vendredi 2 septembre, s'ajoutant au tir 5 jours plus tôt d'un autre missile test depuis le centre de la bande de Gaza vers la mer. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a officiellement mis fin à son programme de prévention de la malnutrition au Yémen, une décision qui entraînera une augmentation des cas de malnutrition. Le PAM a suspendu son programme de lutte contre la malnutrition au Yémen, invoquant des raisons liées au manque de financement. Selon le PAM, 21,6 millions de personnes au Yémen auront besoin d'une aide humanitaire de 2023, et ce alors que 17 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Le directeur exécutif du PAM, David Beasley, avait averti l'année dernière que le programme alimentaire mondial était à court d'argent et que la guerre en Ukraine pourrait rendre difficile le maintien de ses missions au Yémen. La suspension du programme intervient à un moment où des millions de Yéménites peinent à joindre les deux bouts. Cela est dû à la guerre imposée par l'Arabie saoudite et au blocus qui a paralysé l'économie du pays. Comme les familles n'ont pas d'argent, elles ne peuvent souvent pas se permettre d'emmener leurs malades à l'hôpital à temps pour qu'ils soient soignés. Selon le ministère yéménite de la Santé, il y a actuellement 4 millions de cas de malnutrition au Yémen. C'est le plus grand nombre recensé dans le monde. Étant donné que l'ONU suspend son programme, ce chiffre devrait augmenter considérablement. Le premier ministre israélien a convoqué son gouvernement pour décider du sort des Érythréens. Une commission ministérielle spécialement convoquée dimanche 3 septembre à la suite d'intenses émeutes des Érythréens dans les rues de Tel Aviv au cours du week-end a autorisé des arrestations massives permettant à la police d'utiliser une procédure administrative particulière qui exige moins de preuves pour placer un individu en détention. Environ 30 000 migrants africains, originaires pour la plupart du Soudan et de l'Érythrée, se trouveraient dans le pays, nombre d'entre eux affirmant qu'ils sont des réfugiés de la guerre et victimes de l'oppression. La plupart des demandeurs d'asile sont arrivés en Israël depuis l'Égypte entre 2007 et 2012, avant qu'Israël ne construise une barrière le long des frontières de la Palestine occupée. Benjamin Netanyahu a également ordonné aux institutions compétentes de préparer progressivement un plan visant à expulser tous les immigrants illégaux des territoires occupés. Samedi 2 septembre, Tel Aviv a été le théâtre de violents affrontements entre des manifestants érythréens pro-gouvernementaux et anti-gouvernementaux et la police israélienne. Des milliers de manifestants sont descendus dimanche 3 septembre dans les rues de Niamey, la capitale nigérienne, pour la troisième journée consécutive, appelant à la fin de la présence militaire française dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les participants à la manifestation du dimanche ont scandé « Abat la France, France dégage », répétant la demande des dirigeants militaires du pays qui ont renversé l'ancien président allié de Paris, Mohamed Bazoum, et son gouvernement le 26 juillet dernier. Cette manifestation faisait suite à des manifestations similaires vendredi et samedi, au cours desquelles des milliers de personnes se sont rassemblées près d'une base militaire française dans la capitale nigérienne pour exprimer leur soutien à la junte militaire et exiger le retrait immédiat des troupes et des diplomates français du pays. À ces occasions, les manifestants se sont rassemblés près de la base aérienne de la 101e escadrille, scandant des slogans tels que « Abat l'impérialisme », « Soldats français, le Niger est un pays souverain, partez » et « Macron, le Niger n'est pas votre propriété ». Le 3 août, les nouveaux dirigeants du Niger ont annoncé la fin des accords militaires avec la France sur le déploiement de 1500 soldats français encore sur place. Depuis, les Nigériens manifestent devant la base militaire abritant les forces françaises, menaçant de prendre d'assaut les installations si les troupes françaises ne partent pas. Fin août, les chefs militaires du Niger ont également expulsé l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Après avoir levé son immunité diplomatique, ils ont estimé que sa présence constituait une menace à l'ordre public. le chancelier allemand a réaffirmé que le nucléaire n'avait pas sa place dans le bouquet énergétique du pays, tandis que l'Italie s'est engagée à accélérer son intégration afin de réduire les coûts, de sauver l'économie et de favoriser la transition verte. L'inclusion du nucléaire par la Commission européenne comme source d'énergie verte dans le règlement sur la taxonomie a mis en évidence les divisions à travers l'Europe. Samedi, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'il ne relancerait pas le cheval mort de l'énergie nucléaire après les appels des libéraux qui font partie de la coalition gouvernementale à les réactiver suite à la récente sortie du pays de l'énergie nucléaire. La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron s'en est pris à l'Allemagne pour sa position, accusant Berlin de s'opposer délibérément à l'acceptation croissante du nucléaire en Europe. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le Liban n'a pas besoin des conseils et des théories des États-Unis. Le président du conseil exécutif du mouvement de résistance libanais Hezbollah a déclaré que le Liban n'avait pas besoin des conseils et des théories des États-Unis, soulignant que ce mouvement défendra le Liban contre les menaces du régime sioniste. Saïd Hashim Safieddin, chef du conseil exécutif du mouvement Hezbollah, a réaffirmé dimanche 3 septembre que la résistance libanaise tiendra tête avec force au régime sioniste et aux États-Unis. Au lieu de faire des sermons aux Libanais sur la manière de s'entendre avec le Fonds monétaire international et sur la manière dont le monde peut accepter les Libanais au niveau économique, que l'émissaire américain Amos Hochstein fasse un effort pour dire à ses maîtres de lever le siège du Liban. À ce moment, le Liban commencera à se redresser, a-t-il déclaré lors d'une cérémonie commémorative qui s'est tenue ce dimanche dans le village Al-Ousiya, au sud du Liban. Et le responsable du Hezbollah de poursuivre. Les maîtres d'Hochstein sont ceux qui n'ont pas permis au Liban d'utiliser l'aide de la République islamique d'Iran dans le domaine de l'électricité. Ce sont les États-Unis qui empêchent le Liban de se redresser et qui lui impose un embargo comme ils le font avec la Syrie. Pour nous, l'animosité des Américains envers le Liban n'est pas moindre que celle des Israéliens. Mais ceux qui misent sur les paroles des États-Unis doivent savoir que ce pays ne fait que vous promettre et ne prendra aucune mesure concrète pour le Liban. Pour nous, les fils de la résistance, comme l'avons déjà dit, le répétons et le réaffirmons sans cesse, la présence américaine étrangère, nuisible, laide et oppressive dans la région, et pas seulement au Liban, en Syrie et en Palestine, prendra fin un jour. Nous devons être prêts pour l'avenir de notre pays, de notre nation, et toutes nos questions lorsque les Américains la quitteront. C'est à cela que devraient penser certains Libanais, qui malheureusement sont encore bernés par les promesses des ambassades. Safieddin a ensuite souligné que personne au Liban et dans la région ne nie aujourd'hui que grâce à la montée en puissance avérée et démontrée de la résistance dans son parcours et grâce à ses armes, en coopération et complémentarité avec l'armée et les responsables libanais, nous avons pu commencer à forer dans la mer pour explorer nos richesses pétrolières et gazières. La résistance qui a libéré la terre et libéra le reste de la terre occupée, celle qui a restauré la dignité et la souveraineté de cette patrie, restera un besoin et maintiendra sa présence pour défendre le Liban contre l'entité israélienne tant qu'il y aura des menaces et tant qu'elle menacera notre terre, notre pétrole, notre gaz, notre eau, notre vie et notre stabilité. c'est quelque chose d'indiscutable. Ni maintenant, ni plus jamais. A ponctué le chef du bureau exécutif du Hezbollah libanais, Saïd Hachem Safieddine.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission et pour cette nouvelle édition de débat de Presse TV français en ce samedi 2 septembre 2023. Nous sommes en direct depuis la capitale iranienne Téhéran, également depuis le studio de Presse TV français. Après le coup d'État récent au Niger où presque tous les intérêts français ont été mis à l'eau, et il y a en effet cette fois-ci un coup d'État au Gabon, juste après les élections, durant lesquelles et après lesquelles Ali Bongo a été pour la troisième fois élu président du Gabon. Donc les militaires qui ont pris le pouvoir ont annoncé que les élections ne sont pas du tout crédibles et valables, et donc ont pris le pouvoir. D'un autre côté, le point le plus important dans tous ces coups d'État, surtout ces deux récents, ce sont les intérêts de la France qui semblent être en jeu et en défi. La France qui a peur de revivre le scénario du Mali, du Burkina et du Niger, cette fois-ci au Gabon. La France qui n'a pas accepté de faire sortir son ambassade du Gabon, malgré les mises en garde et l'ultimatum lancé par la junte au pouvoir. Nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un petit reportage et un résumé de la situation préparé par mes collègues. On revient tout de suite après.
La question qui revient de plus en plus, c'est est-ce que le Gabon va rejoindre le bloc anti-impérialiste et souverainiste du Mali, Burkina, Niger ? Pour l'instant, il serait trop tôt pour porter un avis sur la question, mais les événements semblent montrer que le coup d'État au Gabon ne ressemble pas au coup de force qui a eu lieu au Mali, au Burkina et au Niger. Les coups de force dans les pays du Sahel continuent d'affaiblir la France et les États-Unis en Afrique de l'Ouest. Et le langage des médias propagandistes françaises le prouve, simplement en victimisant les ex-présidents déchus. Ce qui est différent concernant le Gabon, les médias propagandistes se montrent plutôt compréhensifs et se rangent du côté de la population gabonaise, ce qui est mauvais signe. De plus, les médias comme RFI et France 24, dont la diffusion était interrompue au Gabon, sont maintenant rétablis, malgré que la population en Afrique savent pertinemment que ces médias sont là pour maintenir la propagande du néocolonialisme français, européen et américain sur le continent africain. Les médias français ont pris l'habitude de surnommer les militaires au pouvoir de junte militaire, terme qui n'a toujours pas été employé concernant les militaires au Gabon. Ils utilisent plutôt le terme de militaire putschiste. Les réactions de la communauté internationale sont également intéressantes à analyser. Le premier à avoir montré une indignation vis-à-vis de ce coup d'État, c'est la Chine, qui est le premier partenaire commercial du Gabon devant la France. Il est important de rappeler tout de même que ces dernières années, les relations entre le Gabon et les multinationales françaises se sont dégradées. Prenons l'exemple de la SEEG de la SEG, qui est une filiale de la société française Veolia. Au mois de juin dernier, députés et sénateurs avaient choisi de suivre le gouvernement dont le souhait est de libéraliser le secteur de l'eau et de l'électricité géré jusqu'alors par la seule société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG SEG, filiale du groupe français Veolia. Deux projets de loi relatifs y ont été adoptés à l'Assemblée nationale et au Sénat à 24 heures d'intervalle. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Aux dernières nouvelles, d'après l'ambassade de France, 81 entreprises françaises opèrent au Gabon pour un chiffre d'affaires global de près de 3 milliards d'euros. Rappelons également que le président français était au Gabon en mars dernier pour prendre part au sommet sur la protection des forêts tropicales. Pourtant, en regardant bien Emmanuel Macron et Ali Bongo côte à côte, on peut constater un certain froid entre les deux personnages. Pourtant, ce qui avait surtout fait les gros titres dans les médias propagandistes françaises, c'est le dîner fastueux entre les deux hommes. En pleine période préélectorale, cette affiche avec Emmanuel Macron pouvait être perçue par l'opinion publique gabonaise que comme un soutien indéfectible de la France à Ali Bongo.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Luc Michel, géopoliticien, et également Bernard Cornu, géopolitologue depuis Vaucluse. Tous deux analystes des questions africaines également. Monsieur Michel, je vous dis bonjour et je commence avec vous si vous voulez bien. Alors, quand il y avait eu le coup d'État au Niger, je me rappelle qu'on a évoqué le sujet. Le premier jour, vous étiez assez sceptique. Les prochains jours, vous avez évoqué le fait que ce coup d'État est totalement anti-Occident et anti-impérialiste. On l'a vu, c'est le cas. Mais au Gabon, comment pourrait-on interpréter la situation? Il semble que c'est un petit peu flou. La France a peur, ne fait pas sortir son ambassadeur, annonce d'un côté le gel des coopérations militaires. On attend des actes un petit peu plus concrets de la part de la junte au pouvoir au Gabon. Quelle est votre analyse, monsieur Michel?
Bonjour tout d'abord et bonjour à monsieur Cornu. Écoutez, on entend beaucoup de fausses attitudes à propos du Gabon. Il y a des coups d'État anti-occidentaux au Mali, au Burkina Faso et au Niger, mais au Gabon, c'est un coup d'État pro-occidental. On confond Ali Bongo et son père. Omar Bongo, c'était le joyau de la France-Afrique, mais Ali Bongo s'était considérablement éloigné des Français. Il s'était rendu il y a quelques semaines en Chine pour signer un partenariat stratégique avec la Chine et il est salué par les ministères des Affaires étrangères sud-africains et aussi votre pays d'Iran comme une diplomatie anti-occidentale active. Le coup d'État, évidemment, il resserre les liens du bloc occidental sur le Gabon et le schéma qui se présente, c'est évidemment le mettre au pouvoir l'opposition qui a perdu les élections. Comme vous le soulignez très bien, d'ailleurs, les médias français qui étaient interdits jusqu'au coup d'État au Gabon qui ont été rétablis, évidemment, saluent les putschistes. On ne voit pas le drapeau russe. On ne voit pas la France construite dans les rues du Gabon. Cela veut tout dire.
Merci pour cette première analyse. Reste avec nous. Bernard Cornu, je vous dis bonjour. Vous avez entendu l'analyse de Luc Michel. Vous avez sûrement suivi les évolutions durant ces 3-4 derniers jours. Vous, à votre avis, comment pourrait-on interpréter ce coup d'État? Est-ce un coup d'État pro ou anti-occidental?
Non, je pense qu'il est ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est surtout un coup d'État parce que le président Ali Bongo s'est affaibli mentalement, physiquement, suite à son AVC il y a 5 ans. N'était plus capable d'arbitrer, de contrôler les bisbilles, les querelles qui s'avéraient dans sa famille, puisque déjà son père et lui aussi ont placé beaucoup de gens de leur famille dans différents postes importants, et il commençait à y avoir des querelles. Et la faiblesse psychologique due à sa maladie, son AVC, l'empêchait de pouvoir mettre fin à ces querelles, d'arbitrer et d'écarter les gens qui auraient été trop gênants, trop perturbateurs de l'équilibre dans ce pouvoir d'une famille, d'une tribu au sein des forces gouvernementales et administratives du Gabon. Donc je pense que c'est les gens qui ont organisé le coup d'État suite à des élections qui semblent avoir été un peu, dont les résultats semblent avoir été un peu falsifiés. Il semble que l'opposition avait majoritairement gagné ces élections assez facilement face justement aux défauts de ce gouvernement affaibli, de ce manque de politique économique et sociale rationnelle par rapport à l'état du Gabon. Et donc, je pense que le chef de la garde républicaine a voulu mettre fin au régime. Maintenant, je pense qu'il est difficile, comme il est de la famille aussi, il est difficile de savoir si c'est sa volonté de continuer le pouvoir de cette famille, de cette tribu de Bongo, ou bien il veut en changer et revenir dans un système démocratique et donc refaire les élections que le groupe des putschistes a annulées. Voilà, donc je pense que je ne prendrai pas encore parti pour interpréter au fond la tendance que représente le groupe de putschistes, mais c'est ce que je peux quand même affirmer, dont je suis sûr, c'est que c'était mettre fin à un pouvoir en déliquescence au sein de la famille, vu l'état de santé, l'état de faiblesse du président Ali Bongo. On l'a bien vu quand il a fait son discours en vidéo, en anglais, qu'il n'était vraiment pas très capable de contrôler les choses.
Merci, M. Cornu. Monsieur Michel, vous avez entendu l'analyse de Bernard Cornu. Est-ce qu'à votre avis, on pourra aussi parler de cette analyse, de cette hypothèse que voilà, le coup d'État était pour évincer du pouvoir Ali Bongo après des années de présidence, qu'il était affaibli et que c'est l'opposition qui veut prendre la place et le pouvoir?
Je suis d'accord qu'avec une chose, c'est que le pouvoir est affaibli par la santé d'Ali Bongo. Dire que l'opposition a gagné les élections, c'est faux, elle a fait 30%. Il faut savoir qu'en 2014-2016, le Gabon a été la première victime de révolution de couleur du printemps africain en Afrique. Jean Péquin avait tenté des émeutes. Les émeutiers s'étaient emparés du Parlement. Il avait incendié le Parlement de Libreville. Aujourd'hui, depuis un an, et je n'ai pas arrêté de le dénoncer, les Français et les Américains souhaitaient organiser un deuxième round et profiter des élections pour renverser le régime. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est un coup d'État proxy d'État où le régime principal qui soutenait la Chine en Afrique est renversé. On comprend d'ailleurs aussi bien Moscou que l'on Pékin, on est préoccupé par ce coup d'État.
Et en ce qui concerne Monsieur Michel, vous avez dit, en fait, vous avez évoqué le fait que ce n'est pas un coup d'État comme le Niger, le Mali, le Burkina. Vous avez d'ailleurs raison, on ne voit pas de drapeau russe, on ne voit pas de slogan pro-russe ou pro-axe de l'Est. On voit plutôt des militaires voilà, qui ont pris le pouvoir et qui veulent évincer du pouvoir Ali Bongo. Mais le fait que la junte au pouvoir a en fait exigé le départ et l'exclusion en quelque sorte de l'ambassadeur français et a mis un ultimatum à cela. Est-ce que cela pourrait nous donner un peu d'espoir quant à la nature anti-française de ce coup d'État, Luc Michel?
Non, c'est de la poudre aux yeux. C'est évidemment l'imitation servile de ce qui se passe au Niger. Mais il n'y a pas du tout de sentiment anti-français, au contraire.
Bernard Cornu, qu'en pensez-vous de ce que vient de dire Luc Michel au sujet de l'opposition, des élections, mais aussi cette question que je viens de poser? Est-ce qu'à votre avis, il y aurait des vagues ou des espoirs d'une vague et d'une démarche anti-Occident dans ce coup d'État?
Donc, comme je l'ai dit, c'est vrai que les résultats officiels donnaient 37% à l'opposition, mais à la fois Joseph Borrell et aussi maintenant les Français ont dit qu'il y avait des doutes sur la justesse du scrutin, sur l'honnêteté du scrutin électoral. D'ailleurs, aux élections précédentes, il y avait eu aussi des doutes sur la justesse du dépouillement du scrutin. Des manipulations avaient été, disons, soupçonnées déjà à l'époque. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'il y a donc tout pour ça que le point clé sera l'attitude des militaires putschistes sur ce scrutin. Vont-ils, après l'avoir annulé, vont-ils le refaire et le mieux superviser, le faire superviser, disons, pour obtenir un nouveau résultat et savoir qui va gouverner le Gabon. Je pense qu'on ne peut pas juger encore maintenant. Par rapport à la France, effectivement, c'est au Niger que les putschistes, la junte, ont demandé le départ de l'ambassadeur français, après avoir d'ailleurs récusé la personne, le diplomate qui devait le remplacer au terme de son mandat, c'est-à-dire ces jours-ci. Et donc, ce diplomate, M. Bouabdallah, qui avait été à Jérusalem, donc auprès des Palestiniens, et aussi en Russie, donc il avait cette double connaissance importante, à mon avis, pour gérer cette crise du Niger, il avait été récusé. Je pense que c'était plus à cause d'un refus de la France que du refus d'une certaine personne précise, puisqu'il avait quand même des qualifications qui pouvaient être importantes pour dialoguer avec la jeune. Après le refus de la France de sortir son ambassadeur, effectivement, la junte a dit qu'il n'était plus couvert par l'immunité diplomatique de la Convention de Vienne et a dit que la police allait l'arrêter et l'expulser. Est-ce que ceci aura lieu? Est-ce que par hasard un hélicoptère russe ou américain viendra sur le toit d'ambassade pour sortir cet ambassadeur et l'amener dans une ambassade, disons, beaucoup plus à l'abri des putschistes dans la situation diplomatique actuelle, on ne sait pas. Effectivement, si cet ambassadeur au Niger était expulsé, ce serait quand même une entorse à la Convention de Vienne qui protège les diplomates. Par exemple, quand il y a une guerre qui s'enclenche entre deux pays, l'ambassadeur du pays adverse rend ses documents et s'en va avant le début formel de la guerre, des hostilités. Donc en fait, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est pas facile à gérer, ni pour la jeune Nigérie, ni pour la France, qui n'a pas le soutien de l'Europe, qui veut continuer la diplomatie. Et il y a aussi cette médiation, tentative de médiation assez forte de l'Algérie, qui a vu plusieurs personnes dans la région, et aussi le secrétaire d'État américain, et qui propose une transition de 6 mois, non pas la transition de trois ans que voulait proposer, que voulait annoncer la junte qui a pris le pouvoir au Niger. Au Gabon, je pense qu'il est encore difficile de voir quelle sera la tendance de ce chef de la garde républicaine, ancien chef de la garde républicaine, et partie de la famille. Veut-il restaurer une démocratie réelle, des élections justes au Gabon, ou veut-il préserver le pouvoir de la tribu de Bongo dans le pays? Je pense qu'il est difficile encore de se prononcer.
Merci pour vos explications, Bernard Cornu. En effet, c'est au Niger que la junte au pouvoir a demandé l'exclusion et le départ de l'ambassadeur français. Monsieur Michel, alors, vu la situation et votre analyse, comme quoi le coup d'État serait en fait un coup d'État pro-Occident. Mais on voit quand même des inquiétudes dans les médias français, monsieur Michel. De ce coup d'État, on évoque les intérêts de la France, on évoque le fait que l'une des bases permanentes de la France en Afrique se trouve au Gabon. Et si jamais ce coup d'État tourne en fait vers une position et vers une direction anti-française, ce sera le drame pour la France. Comment interprétez-vous cette inquiétude?
Écoutez, tout d'abord, comparaison n'est pas raison. Le Niger n'a strictement rien à voir avec le Gabon. Deuxièmement, le Quai d'Orsay et Bruxelles soutiennent depuis 2014 toute la déstabilisation du régime. Dès lors, prendre Joseph Borrell comme juge de la validité des élections, parler d'élections justes et transparentes, c'est la thématique occidentale que je ne supporte absolument pas. Maintenant, il faut constater quelque chose. C'est que depuis le Gabon, on menace maintenant le Cameroun, la Guinée équatoriale, où on est très préoccupé par le coup d'État au Gabon. Cela suffit à dire quelle est la guinaison de ce coup d'État.
Et donc, à votre avis, il n'y a aucun espoir comme quoi ce coup d'État pourrait reprendre le chemin et le schéma du Niger, du Mali et du Burkina?
Il n'y en a aucun. Et tant que je n'entendrai pas les putschistes au Gabon demander le départ des troupes françaises, le Gabon est la principale base militaire en Afrique et au Golfe de Guinée. Il menace le Cameroun et la Guinée, que je n'en ai pas besoin. Les coups d'État qu'on a bien mis en place de 2016 et 2017 ont été organisés depuis la base militaire au Gabon. Dès lors, évidemment, on n'entend absolument pas de discours anti-français là-bas.
Mais et j'ai vu, Monsieur Michel, dans les médias, des inquiétudes comme quoi le Cameroun et la Côte d'Ivoire aussi pourraient avoir des coups d'État. Est-ce que si jamais ces deux pays ont recours à des coups d'État, à votre avis, ce sera des coups d'État pro-anti-Occident? Déjà, est-ce que vous voyez la possibilité de voir le même scénario dans ces deux pays?
Écoutez, on organise la confusion dans les médias français. On confond évidemment le coup d'État au Niger et le coup d'État au Gabon. Les Français sont inquiets parce qu'ils voient que la mainmise sur l'ancienne France-Afrique est contestée et que les Français sont éjectés pays par pays. Mais actuellement, ce sont des régiments anti-français au Cameroun, surtout en Guinée équatoriale, qui sont menacés depuis le Gabon.
Monsieur Cornu, vous, à votre avis, est-ce que on pourrait s'attendre à un changement de chemin de coup d'État au Gabon dans les jours, les semaines à venir? Monsieur Michel n'est pas très optimiste à ceci, et vous?
Oui, c'est vrai que si la Chine est inquiète, c'est parce qu'elle est un acheteur important de produits du Gabon, de pétrole, de bois, et donc elle ne voudrait pas perdre cette ressource. C'est vrai que dans le monde du pétrole et même du bois, désormais, il y a des concurrences féroces entre les différents intérêts des pays installés, exportateurs, importateurs, pour, disons, dans cette compétition purement commerciale qui est très forte pour ces produits essentiels. Donc, c'est pour ça que je pense que la Chine suit l'affaire avec attention. Là où je ne serais pas d'accord avec M. Michel, c'est que le souci exprimé par le Joseph Borrell sur les élections, il souhaite juste, honnête, je pense que c'est un souci auquel on ne peut rien reprocher. Moi-même, je dis souvent que même en Europe, il n'y a pas d'élection juste parce qu'actuellement, il faut encore beaucoup de financement pour chaque candidat pour se présenter. Donc forcément, les candidatures sont soumises à des pressions des milieux économiques et financiers. On aura des élections justes quelque part au monde quand il sera interdit d'avoir des dépenses électorales et que les candidats, s'ils sont élus, devront proposer des cautions de bonne foi de leurs propositions comme on le fait dans le milieu des entreprises. Voilà, pour garantir les résultats face à des promesses. Je pense que le processus électoral partout dans le monde doit être amélioré pour qu'il soit honnête, juste et qu'il permette de garantir que des promesses ne soient pas, ce ne soient pas des paroles en l'air, mais pour attirer les électeurs, mais des engagements forts, formels et garantis.
Merci Bernard Cornu. Monsieur Michel, conclusion, à quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines, les mois à venir au Gabon?
Mais tout d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que la démocratie occidentale, c'est tout sauf la démocratie. Joseph Borrell est une crapule, je ne mets pas même bon, atlantisme pro-américain. Il est en pointe contre l'Iran, contre la Russie, et dans cette affaire contre le régime d'Ali Bongo. À quoi doit-on s'attendre? On doit s'attendre à ce qu'on réorganise les élections et qu'on amène au pouvoir l'opposition camerounaise Comprado, qui est soutenue par le Quai d'Orsay et le 7 département. C'est cela le scénario qui est inscrit. Et le chef de l'opposition, André Osso, évidemment, demande qu'on l'amène au pouvoir. Tout cela révèle évidemment quelle est la nature de ce coup d'État.
Merci infiniment. Alors Bernard Cornu, géopolitologue, et Luc Michel, géopoliticien, étaient avec nous pour cette émission dans laquelle nous avons évoqué la situation au Gabon, le coup d'État au Gabon. Alors, les jours, les semaines à venir décideront si oui ou non ce coup d'État sera crédible et dans le bon sens pour le peuple du Gabon. Merci à vous, à toutes, à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Et donc, je vous dis au revoir et à très bientôt.
voyage dans l'univers mystique de Molavo. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. La croûte des choses. Ibrahim Madham, assis au bord de la mer, réparait un accroc à son manteau. Vint à passer l'émir du pays, qui était un admirateur fervent de ce cheikh. L'émir se prit à penser. Voilà un prince qui a abandonné son royaume. Voilà un riche qui a abandonné ses biens. Maintenant, il souffre de son dénuement. Il était un sultan et le voici maintenant qui répare son manteau, ainsi qu'un miséreux. Ibrahim Adham avait saisi ses pensées et soudain, il laissa tomber son aiguille à la mer. Puis, il se mit à crier. « Ô vous les poissons, savez-vous où se trouve mon aiguille ?» À cet instant, des milliers de poissons apparurent et chacun d'eux avait une aiguille d'or dans sa bouche et lui disait « Prends ton aiguille, ô cheikh !» Le cheikh se retourna alors vers l'émir et lui dit « Quel royaume est le meilleur? Ceci n'est qu'un signe extérieur. Tu perdrais la raison si tu connaisses l'essence de ce royaume. De la vigne, seule une grappe de raisin parvient en ville, car on ne peut transporter la vigne dans la cité. Surtout, si cette vigne et le jardin de roses du bien-aimé. Cet univers n'est qu'une croûte. Le chameau perdu. Au moment où la caravane est arrivée pour faire étape, « tu as égaré ton chameau. Tu le cherches partout. » Finalement, la caravane repart sans toi et la nuit tombe. Tout ton chargement est resté à terre et tu demandes à chacun « Avez-vous vu mon chameau ?» Tu ajoutes même « Je donnerai une récompense à qui me donnera des nouvelles de mon chameau. » Et tout le monde de se moquer de toi. L'un dit, je viens de voir un chameau roux et bien gras. Il est parti dans cette direction. Un autre, ton chameau n'avait-il pas une oreille déchirée? Un autre, n'avait-il pas un tapis brodé sur la selle? Un autre encore, j'ai vu partir par là un chameau à l'œil crevé. Ainsi, tout le monde te donne un signalement de ton chameau, dans l'espoir de profiter de tes largesses. Sur le chemin de la connaissance, nombreux sont ceux qui évoquent les attributs de l'inconnu. Mais toi, si tu ne sais pas où est ton chameau, tu reconnais la fausseté de tous ces indices. Tu rencontres même des gens pour te dire « Moi aussi, j'ai perdu mon chameau. Cherchons ensemble. » Et quand enfin vient quelqu'un qui te décrit vraiment ton chameau, ta joie ne connaît pas de bornes. Et du fait de cet homme, ton guide pour retrouver ton chameau. quelqu'un accusait un cheikh en disant « Ce n'est qu'un hypocrite. Il boit du vin en cachette. Comment croire qu'un tel homme puisse aider ses disciples ?» Un fidèle lui dit « Prends garde à tes paroles. Dieu ne permet pas d'avoir de telles pensées au sujet des hommes saints. Mais si ce que tu dis est vrai, ce cheikh n'est pas un si petit bassin pour que si peu de boue puisse le salir. C'est plutôt un océan. » Oui, reprit l'autre, mais moi, je l'ai vu dans un état peu convenable. Il ne prie pas et a un comportement indigne d'un cheikh. Si tu ne me crois pas, viens avec moi ce soir et tu verras. Son occupation, c'est d'être hypocrite le jour et de pécher la nuit. » La nuit venue, ils se retrouvèrent sous la fenêtre du cheikh et le virent une bouteille à la main. L'homme cria alors, « Oh cheikh, la vérité se fait jour. Et toi qui nous disais que le diable mettait ses sabots dans la coupe de vin ?» Le cheikh répondit, « Ma coupe est si rempli que rien ne peut y pénétrer. » L'homme constata alors que la bouteille était pleine de miel et il fut pris de honte. Le cheikh lui dit, « Avant d'avoir des regrets, va me chercher du vin. Je suis malade et j'en ai besoin. » Dans pareil cas, les choses ordinairement interdites deviennent licites. L'homme se rendit à la taverne, mais dans chaque tonneau, il ne trouva que du miel. Aucune trace de vin. Il demanda au tavernier où était le vin. Quand ils eurent constaté cette étrange métamorphose, tous les buveurs de la taverne se mirent à pleurer et se rendirent auprès du cheikh. « Oh maître, tu es venu une seule fois dans notre taverne et tout notre vin s'est transformé en miel. Ce monde est plein de nourriture illicite, mais le fidèle ne doit pas y toucher. » La souris. Une souris s'empara un jour de la bride d'un chameau et ordonna à ce dernier de se mettre en marche. Le chameau était de nature docile et il se mit à marcher. La souris en fut remplie d'orgueil. Ils arrivèrent soudain devant un petit ruisseau et la souris s'arrêta. « Oh mon ami, dit le chameau, pourquoi t'arrêtes-tu ? Marche, toi qui es mon guide. » La souris dit, « Ce ruisseau me sent profond et je crains de me noyer. » Le chameau, « Je vais essayer. » Et il s'avança dans l'eau. L'eau n'est pas profonde, elle ne dépasse pas mes jarrets. La souris lui dit, « Ce qui t'apparaît comme une fourmi est pour moi un dragon. Si l'eau t'arrive aux jarrets, elle doit dépasser ma tête de plusieurs centaines de mètres. » Alors le chameau lui dit, « Dans ce cas, cesse d'être orgueilleuse et de te prendre pour un guide. Exerce ta fierté sur les autres souris, mais pas sur moi. » « Je me repens, dit la souris. Au nom des dieux, fais-moi traverser ce ruisseau. »
Thank you.